merci d'être venu aujourd'hui pour cette conférence. 2008, je vais juste me mettre sur silencieux, comme ça j'embêterai personne. 2008 a été une année un peu triste pour la science-fiction, avec le décès le 19 mars dernier d'Arthur C. Clarke, grand auteur s'il en est. On se souvient tous évidemment de 2001, l'Odyssée de l'espace, on se souvient tous de Rama. Et donc on ne pouvait pas passer cette édition des Utopiales sans évidemment évoquer Arthur C. Clarke. Et pour évoquer Arthur C. Clarke, on a demandé à trois personnes de venir sur scène. Tout d'abord, complètement à ma gauche, à côté de la traductrice Alastair Reynolds, la traductrice dont le nom est Anne. Voilà, c'est Anne qui va nous sauver la vie. Et donc elle est juste à côté d'Alastair Reynolds. Au milieu, vous avez Marc Caro, réalisateur, qui vient de présenter à la soirée d'ouverture le documentaire Astro Boy à Roboland, et qui passera sur Canal+ en début d'année, si j'ai bien tout suivi, qui va lui plus peut-être nous parler de l'homme et ses idées scientifiques qui l'ont un petit peu intéressé. Et puis juste à ma gauche, nous avons Corinne Guiteau, dont la dernière actualité c'est la série J'aime aux éditions de La Talente. Alors Arthur C. Clarke, on le connaît tous, c'est-à-dire que je vais faire un rapide rappel. C'est un homme qui a eu une espèce de double vie, à la fois en tant que scientifique, c'est à lui qu'on doit des idées notamment comme l'ascenseur spatial, mais qui a aussi pas mal travaillé sur les satellites géostationnaires qui sont encore utilisés aujourd'hui. Et puis c'est évidemment l'écrivain avec Rendez-vous avec Rama, avec 2001, l'Odyssée de l'espace et tous les Fontaines du Paradis. Et tous ces romans qui ont marqué un petit peu l'histoire de la science-fiction. Alors simplement, on va demander à Alastair Reynolds. Alors Alastair Reynolds, ce qui est intéressant, c'est qu'il est né juste à côté de l'endroit où est né Arthur C. Clarke. Et il l'a beaucoup lu et il l'a littéralement dévoré. Alastair, quand est-ce que vous avez lu pour la première fois Arthur C. Clarke et quel est le roman qui vous a le plus marqué ?
Hello. Yes, it's true. I was born quite near Minehead, which is the place that Arthur C. Clarke was born in 1917. But there was a big bit of water between where I was born and Minehead. There was the Bristol Channel. But you could see it from our house, so that was always nice. So I always felt a kind of connection to Arthur C. Clarke then. Clarke was, I think, the very first science fiction writer that I read, and I must have been 7 or 8 years old when I started reading Clarke. I read his short fiction to begin with, and it was completely accidental. I didn't go looking for it. I used to get a magazine when I was a little boy, and at the back of the magazine they reprinted old stories by Clarke. When I was reading them, I had no notion that they were 30 or 40 years old at the time. I thought they were just brand new stories, and I thought they were fantastic.
Anne va nous faire la traduction.
Oui, donc effectivement, il est né pas loin de là où est né Arthur C. Clarke. Il y avait juste une différence entre eux, c'était le Channel, mais donc de sa maison, il pouvait voir effectivement le lieu où il était né. Alors, la première fois qu'il a lu un auteur de science-fiction, c'était vers 7 à 8 ans. Et c'était en fait un petit peu un accident, par accident, puisqu'il ne cherchait pas vraiment à lire ce type d'histoire. Mais il recevait un magazine, et au dos de ce magazine, il y avait toujours des réimpressions de vieilles histoires. Alors, quand lui, il a lu ces histoires, quand il a pris connaissance de ces histoires-là, il ne savait pas du tout qu'il s'agissait d'histoires qui avaient déjà 30 à 40 ans d'âge. Donc ça, c'était sa première découverte qu'il a eue avec cet auteur.
It was all good stuff, because I was already very interested in rockets and space travel and stuff like that, because I'd been watching Star Trek and Doctor Who. The type of things that Clarke was writing about was very much what I wanted to read. They were stories about building space stations, going to the moon, going to Mars, adventures in space with a kind of realistic edge. And from reading those stories, I then moved on to his novels. And the very first adult novel of any kind I read was the 2001 A Space Odyssey. And basically, I just read everything he wrote after that, right up until the end of his career, where I wasn't reading the sort of collaborations and things. But I still hold, I still think the early to mid-period Clark stuff is unsurpassed. It's just fantastic in my book.
Oui, donc en fait, pour lui, tout ce qu'il lisait dans cette histoire, c'était de la très bonne matière, c'était ce qu'il voulait, ce qu'il recherchait, puisqu'il avait intéressé par les roquettes, par les voyages dans l'espace, il regardait Star Trek à la télé, Doctor Who, et c'était effectivement ce qu'il voulait lire. Parce qu'il s'imaginait construire des stations spatiales, aller sur Mars. Le premier roman réellement qu'il a lu de lui après ces nouvelles qu'il lisait dans ce magazine, c'était L'Odyssée de l'espace 2001. Et après ce roman-là, il a poursuivi sur tous les autres et il les a tous lus. Et pour lui, c'est encore toujours un niveau de roman insurpassé, enfin, inatteint. Pas surfait depuis.
D'accord. Something more? No? Ok. Je vais poser la même question à Corinne. Quand est-ce la première fois que tu as mis le nez dans Arthur C. Clarke? Et quel est le roman qui t'a le plus marqué?
En fait, moi, je l'ai découvert indirectement parce que ça a commencé par une bande originale des Chants de la Terre lointaine qui était de Oldfield. Et en ayant écouté la musique, je me suis dit, tiens, il y a un roman derrière. Donc j'ai lu Les Chants de la Terre lointaine. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est celui qui a fait 2001. Et c'était en 1994. Et à partir de 1994, j'ai essayé de récupérer tous les romans de Clark. Donc je viens seulement de finir de récupérer tout ce que je voulais avec Les Prairies Bleues. Et donc, en fait, ce qui m'intéressait chez lui, c'était... l'humanisme qu'il y avait dans la façon dont il approchait la science. Moi, j'ai une formation de littéraire, donc la science et moi, surtout les mathématiques, etc., c'était pas vraiment mon truc. Et grâce à lui, je suis revenue vers la science et je me suis intéressée à des revues scientifiques. Et comme ça, je me suis réconciliée avec ce que les professeurs m'avaient pas donné envie d'étudier.
En plus, je crois que tu as beaucoup joué à un de ces jeux vidéo qui a failli te faire louper tes études.
Oui, au moment où, donc c'était en 97, au moment où je passais ma licence, il y a le jeu Rama qui est sorti sur PC. Et je jouais avec pour rentrer dans la fameuse antre des octopodes. Et une fois, je suis arrivée à un cours très sérieux sur l'histoire médiévale dans un amphi bondé. Et il y avait mes copines qui m'attendaient quasiment au premier rang, et je suis arrivée en disant « Je suis rentrée dans l'antre des octopodes ». Là, ils m'ont regardé en se demandant si j'avais pas pété un câble avant d'arriver en courant.
Comme quoi, il y a parfois des conséquences un peu étonnantes sur Arthur C. Clarke. Je vais poser la même question à Marc Caro. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'homme? Qu'est-ce que vous avez lu d'Arthur C. Clarke, et qu'est-ce qui a veillé votre
curiosité? C'est un peu comme Mademoiselle. J'ai commencé par une manière détournée. J'ai vu, quand j'étais très petit, 2001 l'Odyssée de l'espace. Et ça a vraiment été un gros choc cinématographique pour moi. Et je me suis aperçu que Stanley Kubrick avait écrit ça avec un auteur qui s'appelait Arthur C. Clarke. Donc j'ai lu, pour comprendre quelque chose aussi, j'ai commencé à lire le roman de 2001 l'Odyssée de l'espace. Et puis j'ai commencé à voir que c'est quelqu'un qui était un gros passif scientifique. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, moi, tout ce qui est la science-fiction, mais plutôt le côté art science. Et donc j'ai commencé à lire effectivement certains de ses autres romans comme Rama et des choses comme ça, un peu beaucoup plus tard forcément. Et puis certains ouvrages de vulgarisation qu'il a fait sur la conquête spatiale et sur son ascenseur de l'espace et sur plein de choses comme ça. Et puis il y a un autre aspect aussi qui m'a intéressé, parce que à votre différence, moi, ça, les mathématiques m'intéressent beaucoup. Et tout son côté, je sais qu'il a ce côté scientifique et tout ce côté aussi, il faisait partie de la fondation des sceptiques et des zététiciens et tout ça. Et c'est un aspect, comme je suis un grand lecteur aussi de Martin Gardner et de tout ce genre d'auteurs, c'est un aspect de la personnalité d'Arthur C. Clarke qui m'intéressait.
Pour revenir sur le côté scientifique, qu'est-ce qui vous intéresse dans, par exemple, l'ascenseur spatial dans une de ces idées?
La première fois que j'ai lu ça, je me suis dit c'est vraiment quelque chose de vraiment de typiquement science-fictionnesque, parce que aller mettre en orbite géostationnaire un câble et penser à mettre un ascenseur qui va pouvoir porter tout le matériel en dehors de la gravité terrestre. Ça semble un petit peu farfelu, et après on commence à s'apercevoir que c'est quelque chose qui a été énormément pensé, énormément réfléchi. Il y a les calculs, il y a tout le background vraiment scientifique, et il avait fait des propositions comme quoi on pourrait effectivement construire les vaisseaux spatiaux dans l'espace en allant prendre le minerai sur la Lune, parce que ça coûtait moins cher au niveau énergétique, puisqu'il n'y a plus de pesanteur, des choses comme ça. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a tout un vrai travail scientifique qui est passionnant. Comme moi, c'est vrai que je suis quand même d'une génération qui espérait pouvoir aller, que la conquête spatiale, ça y est, c'était parti, il y avait un mec qui marchait sur la Lune et tout ça, et que ça allait partir. Tout le côté auquel il a énormément participé de ce travaux, toute cette continuation après les fondateurs de l'astronomie comme Oberth, comme Werner, von Braun et puis Tsiolkovsky, il y avait un vrai courant comme ça dont il est un des maillons, quoi.
On va revenir à Lester Reynolds. Quelles sont un petit peu les influences qu'on retrouve dans vos œuvres? Et où vous pouvez dire, ça c'est un petit peu Arthur C. Clarke qui m'a donné.
Probably anything good that's in my writing probably came from Clarke. His humanism, his pacifism, his basic optimism. He was a rationalist. He was deeply interested in science and how the universe worked, but he was open to things. He was not completely closed. I just got so much from Clarke. I mean, just as a reader, he opened my mind to so many things, not just science, but thinking about the way science works, thinking about the way we imagine the future, all of which fed into the way I think as a science fiction writer. So I'm not alone in that. I think there's a whole generation of science fiction writers who are steeped in Clarke and the way Clarke thought. And now that he's gone, I think it's even more important that we keep that flame, if you like, the kind of rational optimism of Clarke.
Donc, ce qu'il a influencé, bien probablement tout ce qui est bon dans ses livres, c'est-à-dire l'humanisme, le pacifisme, l'optimisme. Ça lui a permis d'ouvrir sur beaucoup de choses, comment fonctionne l'univers. Ça lui a ouvert l'esprit à tant de choses, à imaginer le futur, comment fonctionnent les choses les unes par rapport aux autres. Et il n'est certainement pas la seule personne qui a été influencée de cette façon. Toute une génération d'écrivains de science-fiction ont certainement été influencés, tels que lui, de la même façon par lui. Et certainement, maintenant qu'il n'est plus, c'est encore plus important de garder justement cette flamme et l'influence qu'il peut avoir sur les auteurs de science-fiction.
Corinne, tu me disais que notamment dans Aquatica, il y avait plein de références et plein de clins d'œil à Arthur C. Clarke.
Il y a notamment le personnage de Nicole Desjardins, qui est l'héroïne de Rama, qui est une métisse née en France. Moi, je suis attachée à la région d'Orléans, et justement, Nicole Desjardins vient de, si je me souviens bien, de la Touraine, enfin de la région centre. Et le personnage de Tamara Wellings dans Aquatica est métisse et a aussi des responsabilités sur la planète Atlante. Et en plus, comme j'avais été bien enquiquinée par cette histoire de jeu, de Rama, au moment où je travaillais sur Aquatica, quand Tamara découvre le vaisseau Vainamoinen au fond de l'eau et qu'elle doit accéder au poste de pilotage, elle passe par un certain nombre d'épreuves qui ont été les mêmes que celles que j'ai dû subir pour avancer dans le jeu. Je me suis dit, comme ça, je me venge un peu sur le... l'auteur. Il y a aussi les races extraterrestres assez nombreuses dans Aquatica et qui ont été inspirées par dans Base Vénus. Il y a une race extraterrestre que l'héroïne, là par contre j'ai zappé son nom, l'héroïne rencontre à la fin de sa quête et qui ressemble, enfin qui m'ont inspiré pour les Procoriens qui sont aussi qui apparaissent à la fin de la quête de Tamara.
C'est des influences qui sont consciente, c'est-à-dire qu'à un moment tu te dis ah bah tiens je vais entre guillemets piquer ça ou faire comme, ou c'est des influences où tu te rends compte après, une fois que tu as écrit sur ces personnages, qu'il y a un vrai lien avec Arthur C. Clarke.
C'est pour la plupart des influences conscientes, donc je savais que les Procoriens, j'avais vraiment, je trouvais cette la race que Clarke a inventée dans Base Vénus vraiment très intéressante. Ils sont à la fois des créatures aquatiques et extrêmement intelligentes qui voyagent dans des vaisseaux, donc il fallait inventer comment est-ce que des créatures qui respirent sous l'eau pouvaient-elles voyager ensuite dans l'espace. Nous on a le problème de l'oxygène, là c'était le problème de l'oxygène mais dans l'eau, donc ça j'ai trouvé cette idée très intéressante et j'ai voulu continuer à la développer à ma façon dans Aquatica. Et donc il y a ce que je disais à propos du parcours de Tam dans le vaisseau. Et d'autres influences, c'est en venant ici que je me suis dit, tiens, qu'est-ce que Clarke m'a apporté vraiment dans mon écriture. Et je me suis rendu compte que c'est principalement dans Aquatica, plutôt que dans les romans qui ont suivi, qu'il était présent, ce qui n'avait rien d'étonnant, parce que je le lisais en même temps que j'étais en train d'écrire ce roman.
Alastair Reynolds, c'est la même chose pour vous? Est-ce qu'il y a des points très précis en termes d'influence, comme Corinne, un personnage qui fait référence à Arthur C. Clarke, ou une situation ou des thématiques précises?
Well, it's probably kind of a boring thing to say, but when I was writing sort of science fiction as a kind of hobby when I was in my teenage years, one of the things I noticed about Clarke's stuff was that he never had, well, very rarely was there any kind of faster than light travel, and it took forever to get anywhere, and there was a certain texture to his stories that came out as a result of that. It made space seem very big and mysterious because you couldn't go zipping around really quickly. It took forever to get anywhere. And I kind of was impressed by that. And it was something that I tried to copy when I was starting out as a writer. And that's kind of fed right through my career ever since, is basically, if Clarke did it, I do it. And if he didn't do it, I don't do it.
Il dit que c'est probablement ennuyeux à raconter, mais donc quand il était un teenager, en tant que hobby, quand il s'amusait justement à écrire, ce qui chez Arthur C. Clarke l'a beaucoup marqué, c'était la difficulté de se déplacer dans l'espace, ce côté mystérieux. L'espace est très très grand et la difficulté et l'effort qu'il faut faire pour se déplacer dans le temps, justement. Et ça, c'était quelque chose qui l'a très fortement impressionné. Et aussi dans la façon d'Arthur C. Clarke, ce qu'il faisait, il voulait le faire aussi, mais ce qu'il ne faisait pas, il ne le ferait pas non plus.
Et est-ce que dans vos romans, à vous, il y a des personnages qui font référence à Arthur C. Clarke ou des thématiques ?
Well, it was maybe one of the very early stories I read of his was a novella called Meeting with Medusa, and it's about exploring Jupiter in a hot air balloon, and this guy goes down into Jupiter and he encounters these alien creatures, and it's really very poetic, but at the end of the story you find out that the guy is in fact a kind of cyborg. He's survived an accident earlier in the story, and they've made him into this machine. And I think that was the first time I ever encountered the idea of the sort of cyborg man-machine hybrid. And a lot of the characters in my books kind of owe something to Howard Falcon from that story. It really had a powerful effect on me as a child when I read that story. It kind of disturbed me, but interested me at the same time. So I don't think Clark was ever... He's not going to be a writer who will be remembered for specific characters, because that's not really what he did. I mean, I struggle to remember any characters from 2001 or Rendezvous with Rama or Sands of Mars, but I do remember the situations that he put his characters in and how they responded, and that's what sort of sticks with me.
Alors, lui, ce dont il se souvient, qu'il a marqué, c'était dans les premières nouvelles qu'il avait lues de lui, c'était Rencontre avec Médusa, où dans une exploration de Jupiter, on rencontre des créatures extraterrestres. C'est assez poétique. Et il y a là un cyborg qui a survécu à un accident qui intervient. Et c'était pour lui la première fois qu'il rencontrait le personnage tel que, enfin, la chose telle qu'un cyborg. Et ça l'a très fortement influencé, ça l'a aussi perturbé. C'est certain que dans ces histoires, les cyborgs, ce sont des personnages importants. Mais pour lui, il n'y a pas vraiment un caractère type qui l'a plus influencé que d'autres. On ne se souvient pas tellement d'un caractère, mais plus de situations. Ce sont plus les situations dans Arthur C. Clarke qui l'ont influencé que des personnages spécifiques.
D'accord. Même question à Marc Caro. Alors, pour le coup, quel est un petit peu... Est-ce que Arthur C. Clarke a une part dans votre travail? Est-ce qu'il y a des influences et des références?
Je pense qu'il n'y a pas d'influence directe à part... l'intervention dont on peut rêver, la collaboration qui a pu exister entre lui et Stanley Kubrick sur 2001. C'est vrai que tout réalisateur rêve d'une rencontre pareille. C'est vrai que l'influence qu'a pu avoir l'aspect très scientifique et toutes les portes ouvertes qu'a permis Arthur C. Clarke à Stanley Kubrick, au niveau de la NASA, au niveau des rencontres avec les designers comme Harry Lange ou Fred Hordaway, qui ont designé tous les vaisseaux, le Discovery, tout ça, toutes les rencontres, les liens qui ont pu être tissés à travers Arthur C. Clarke avec la communauté scientifique, a vraiment fortement influencé le film de Kubrick. Et donc c'est vrai que c'est un rêve pour tout réalisateur d'avoir cette complicité. En plus, le roman c'est quand même vraiment construit au fur et à mesure. Il y avait un genre de presque de pacte qui avait été fait entre les deux, entre Arthur C. Clarke et Stanley Kubrick, où chacun revendiquait un peu la paternité et l'un du livre et l'autre du scénario. Et en même temps, c'était une œuvre qui se construisait au fur et à mesure du tournage et qui évoluait et qui a changé jusqu'à la fin et jusqu'à à la fin du film et jusqu'à la fin à la publication du livre. Et c'est vrai qu'une complicité comme ça entre deux créateurs, entre deux auteurs, est quelque chose qui ne peut que faire envie. Et c'est vrai que quand on commence un petit peu à farfouiller là-dedans et qu'on voit que au départ c'était pas du tout prévu que ce soit ce monolithe noir, que c'était une pyramide translucide avec des projections qui devaient apprendre aux singes, et comment ça s'est transformé en ce monolithe noir où on vient juste toucher dedans et après on va prendre un os et on va le jeter en l'air et ça va devenir un vaisseau spatial qui va vers une station orbitale et tout ça, c'est fascinant quoi. La partie de ping-pong entre deux esprits de ce niveau et en tant que spectateur et comme ça est absolument extraordinaire.
Et qu'est-ce qui vous semble le plus important dans l'œuvre d'Arthur C. Clarke? Qu'est-ce que vous retiendriez?
Alors, ce que je pense, c'est que pour moi, il fait partie de cette génération d'auteurs qui a un fort background scientifique, comme Asimov, et je trouve que ça se ressent dans l'écriture et dans la construction de leur récit, qui a vraiment cette évidence. Quand on voit, par exemple, Rama, quand on voit la construction qui sous-tend toute la création d'un univers qu'on nous donne à découvrir, il y a une telle cohérence interne au monde qui est créé justement avec les ectopodes et tout ça, qu'on sent que derrière il y a un tissu vraiment très très solide, très logique, et qui fait que ça crée, on est vraiment spectateur d'une petite fenêtre qui s'ouvre sur un imaginaire, mais qui a une vraie consistance. Et ça, c'est vrai que c'est, je pense, peut-être ces auteurs des années 50-60 avaient cette rigueur, encore que je trouve que maintenant on retrouve à travers Greg Beer et toute une école de science-fiction comme ça, cette rigueur aussi scientifique amenée, apportée, qui vient soutenir l'imagination la plus débridée, quoi.
Corinne, un petit peu même question. Qu'est-ce que tu retiendrais un petit peu d'Arthur C. Clarke et de sa carrière? Toi qui as dévoré tous ses romans, qu'est-ce que, s'il y en avait un, ou qu'est-ce qui est le plus important?
Je vais reparler de Rama, puisque c'est celui qui m'a le plus marqué. J'ai dû lire 10 fois. Oui, ça doit être à peu près ça. Quasiment tous les ans, quand je mets le nez dans ma bibliothèque et que je regarde les Rama, enfin les Clarke, c'est Rama qui revient quasiment à chaque fois. C'est vrai qu'il y a ce vaisseau gigantesque, on ne sait au départ pas d'où il peut venir, et puis petit à petit, au fur et à mesure que l'équipe d'exploration pénètre à l'intérieur, on voit que... Alors ils pensaient juste que c'était la partie avec les grandes cités, ils se demandent déjà à quoi servaient ces cités, on découvre après que ce sont pas seulement des fonctions, elles n'ont pas seulement de fonctions d'habitation, mais qu'elles font partie du fonctionnement du vaisseau pour le faire avancer. Et après, au fur et à mesure des découvertes, l'équipe d'exploration va tomber sur les autres races extraterrestres qui peuplent Rama. Et derrière encore, Clarke parvient à trouver encore d'autres idées, d'autres races extraterrestres de plus en plus extraordinaires. Donc c'est... moi, mon grand regret, c'est de... Il y a Morgan Freeman qui a acheté les droits d'adaptation au cinéma de Rama. Dans les années, fin des années 90-2000. Et mon grand regret, c'est que, alors qu'on voyait le jeu qui avait été fait, on s'est dit, ça y est, la machine est lancée. Et tous les ans, on a ce serpent de mer qui revient en disant, Rama va être adapté. On a deux images de synthèse qui nous montrent le vaisseau. Et on attend toujours. Et ça, c'est le grand regret.
Alors, toi qui as tout lu, parce que souvent, quand on a... Un monument comme ça de la science-fiction, on retient 2-3 romans, pas plus. Est-ce que les autres sont aussi intéressants à lire, ces dizaines de romans qui restent?
Les collaborations avec les... Parce que c'est Base Vénus a été écrit avec un autre auteur, Guettard, je me souviens plus de son nom, mais des Base Vénus, ou 10 sur l'échelle de Richter aussi, les collaborations sont intéressantes parce qu'on a la base scientifique de Clarke et on a en même temps le génie d'autres jeunes auteurs qui ont demandé cette collaboration ou à qui il a proposé cette collaboration. Il y a aussi le tout dernier que j'ai lu, c'est La lumière des jours enfuis, avec cette idée extraordinaire des trous de verre. Comment cette découverte essentielle va permettre ensuite de complètement modifier la société humaine, puisque ces trous de verre vont permettre aux humains d'être connectés les uns aux autres, et du coup l'humanité, au lieu d'être égoïste et d'agir sans savoir ce que l'autre pense, va être connectée grâce à cette invention. Et les collaborations sont intéressantes dans le sens où il y a cette base scientifique au départ que Clarke propose, et le scénario et certaines idées. Donc, c'est vrai que j'ai, grâce à Clarke, j'ai aussi apprécié les nouvelles. C'est un genre où moi j'ai encore aujourd'hui beaucoup de difficultés pour écrire, et c'est Clarke qui m'a fait apprécier le genre plus que d'autres auteurs. Et comment en quelques lignes il arrive à transformer une situation de départ, c'est morose. Il y a une nouvelle qui me marque à chaque fois, je la raconte brièvement à mes élèves, où il y a une race qui revient sur Terre et qui dit voilà, nous avons vécu avec vous pendant très longtemps, mais une maladie nous a séparés, on a dû partir dans l'espace et vous laisser de côté, on le regrette vraiment. Et la chute de la nouvelle, si certains d'entre vous sont encore blancs, nous pouvons les guérir. Et là, on ne peut pas s'empêcher d'éclater de rire en se disant, il y a eu tout ce développement pour arriver à cette chute extraordinaire. Donc, Il y a aussi l'étoile, où moi c'est le Clark que je préfère, celui qui est scientifique et qui en même temps s'interroge sur Dieu, parce que on pense bien souvent que science et Dieu c'est pas possible, et Clark m'a prouvé que les scientifiques pouvaient être réconciliés avec Dieu, où il y a ce prêtre qui accompagne une mission d'exploration vers une supernova de la nébuleuse de l'Aigle, si je me souviens bien, et qui découvre en arrivant que c'est cette supernova-là qui a éclairé le ciel au moment de la naissance de Jésus. Et comment lui, en tant que prêtre, pouvait vivre ça en tant que croyant, pouvait vivre ça par rapport à la catastrophe que ça avait engendré, puisque la supernova a détruit une civilisation entière et a été interprétée sur Terre par la naissance de Jésus.
D'accord, donc on peut lire et piocher tout.
Tout, voilà.
Alastair Reynolds, c'est un petit peu la même question. Qu'est-ce que vous retenez de cette carrière d'Arthur C. Clarke ?
Well, Rama was a major book for me as well. I remember, I think it was the one I read immediately after 2001, so it would have been maybe the second novel of his that I read. And I just remember being just, whoa. You know, it just can't get more exciting than this book. I mean, I just could not wait to turn the page when they're going into this enormous structure and you don't know what's inside, and Clark ratchets up the tension. And I was, you know, 8 or 9, and that just rocked my world on so many levels. That's one of the big touchstones for me, Rama. And the other book of his that really means a lot to me is The City and the Stars, which was a book that was based on a story that he'd written in the 1940s. It's one of the earliest things he wrote, Against the Fall of Night. And later he expanded it into a novel, The City and the Stars. And that, I think that was where I got the real sense of wonder that I really associate strongly with Clark. It's almost like a physical taste, if you like. I mean, no one else did it for me in quite the same way that Clark did with The City and the Stars. And that book gave me a real taste for science fiction that's almost like fantasy, because it's so far future. It's millions and millions of years in the future. And the last survivors of the human race living in a single city on Earth, and they have almost godlike powers, but they've never... It's been millions of years since they've left the city, and they don't really know what's outside. And again, Clark builds up that tension, because the main character decides to leave the city, and you just, you know, you've got to find out what's beyond the city. And it's just wonderful. And I know it's good because I reread it recently and it was just as good. So it's not just me thinking, oh, it was great when I was 8. But it really does stand the test of time. So for me, it's Rama and The City of the Stars. I mean, I like all the other stuff, but those are the twin peaks, you know. It's Everest and K2 as far as I'm concerned.
Alors, pour lui, Rama a été aussi un livre majeur qu'il a lu après Odyssée 2001. Il se souvient avoir été très excité quand il a lu ce livre. Il ne pouvait pas attendre de tourner les pages. La tension montait. Il avait 8-9 ans quand il a lu Rama. Pour lui, ça a vraiment ça a chamboulé son monde. L'autre livre qu'il a lu, qu'il a très fortement marqué à côté de Rama, c'était la Cité des Étoiles, je crois. Oui, voilà. Cité des Astres, traduit en français. Donc à la base, c'était une histoire qui avait été écrite vers 1940, qui a après été réécrite et poursuivie en roman. Et pour lui, c'était vraiment quelque chose de très important, qui l'a beaucoup influencé, qui l'a fortement marqué. C'était vraiment une façon de goûter physiquement les choses. Pour lui, personne n'a écrit, ne pouvait écrire les choses de la même manière que Arthur C. Clarke a pu les écrire, d'imaginer les choses dans des millions d'années, le futur d'ici des millions d'années, la façon dont il pouvait justement construire la tension où il y a un personnage qui quitte cette cité, de savoir ce qui va se passer derrière la cité, et la tension qui monte alors qu'on le lit, de se demander ce qui va lui arriver. Et il dit que pour lui c'est très bon, mais pas uniquement pour lui, il dit qu'il sait que c'est très bon puisque cette qualité reste dans le temps. C'est un livre qui vieillit très bien et qui garde justement cette importance, donc c'est pas que pour lui qu'il considère que ce sont deux bons livres, c'est dans l'absolu de très bons livres.
Alors Oui, c'est bon. J'ai fait pas mal de conférences. Je sais que parfois il y a beaucoup de questions. Alors, avant que je pose les dernières questions, est-ce que quelqu'un a une question ? Quelqu'un a envie d'évoquer un livre d'Arthur C. Clarke ? Oui, monsieur. Hop. Je fais ça parce que parfois c'est un petit peu frustrant. Du coup, on n'a pas le temps de discuter véritablement.
Bon, je confirme que pour moi, un des meilleurs de Clarke, c'est La Cité et les Astres, qui parut en rayon fantastique en France. Qui était bien avant 2000 ans d'essai de l'espace, mais il y a aussi une très bonne nouvelle qui est les 9 milliards de noms de Dieu, qui est absolument géniale, cette nouvelle, qui est dans le Press Pocket spécial Clarke, et la nouvelle de l'inauguration du congrès d'anthropophagie, là, je ne sais pas si c'est le titre exact, et il a plein d'humour aussi, il y a plein de nouvelles avec de l'humour dans ça, et apparemment les deux auteurs français qui sont là, vous avez peu de références avant 2000 ans d'essai de l'espace, et il a pas fait que ça. C'est vrai que 2000 ans d'essai de l'espace aussi.
On est trop jeune peut-être.
Non, moi c'est vrai que j'ai découvert les romans et qu'après ayant lu tous les romans, je suis allée vers les nouvelles et que j'ai effectivement découvert qu'il n'avait pas écrit que 2001 et que il n'y avait pas que le film. D'ailleurs moi le film je l'ai vu à Je l'avais vu quand j'étais gamine, la scène qui m'avait marqué, c'était justement le moment où l'intelligence arrive du ciel et que l'homme utilise l'outil, mais j'avais pas fait le rapprochement avec Clarke, et c'est après avoir lu 2001 que je me suis dit, il faut que je revoie le film absolument pour me remettre les images du film, et je préfère de toute façon toujours avoir lu un livre et voir le film après. Moi, ce qui m'intéresse justement, puisque j'ai un réalisateur à côté, c'est de voir justement comment le réalisateur lui va interpréter le livre. Et c'est parce qu'un livre à adapter, c'est toujours très compliqué. On ne peut pas rentrer dans tous les détails que le lecteur lui a mis dans son livre. Donc le regard que le réalisateur a sur le livre est quelque chose qui m'intéresse aussi.
Oui, mais là, c'est vraiment c'est pas l'adaptation d'un livre. C'est ça qui a fait le truc vraiment spécifique de 2001, l'Odyssée d'espace, c'est que c'est une vraie collaboration entre les deux. Au départ, je pense que Stanley Kubrick avait eu l'idée pendant, Docteur Folamour, de faire que toute l'histoire de Docteur Folamour soit vue par des extraterrestres, comme si c'était un documentaire vu par des extraterrestres. Et puis il a essayé de glisser ça dans son scénario, puis ça n'a pas fonctionné. Et il s'est dit, non, il faut que je fasse un vrai bon film de science-fiction. Et donc, il a contacté en 64, je crois, Arthur C. Clarke, et il lui a acheté une demi-douzaine de nouvelles, dont La Sentinelle, qui a été publiée en 1951 et qui a servi un peu de base, de substrat à la coécriture de ce scénario. Donc, c'est pas une vraie adaptation, c'est pas quelque chose qui préexiste. Il y a des thématiques qui préexistent forcément. C'était, on trouve dans le sous-sol lunaire, quelque chose qui va signaler que, ben ça y est, les petits terriens là, jusqu'à présent, ils étaient restés sur leur petite planète, et puis là, il y a le signal qu'ils vont se répandre et peut-être venir foutre le bordel ailleurs. Donc, il a pris cette base-là et ils ont coécrit cette grande aventure, quoi. Donc, c'est vrai que moi, c'est une histoire de générationnelle. C'est la première chose que j'ai vue. Par contre, au niveau d'Arthur C. Clarke, c'est le film de Stanley Kubrick. Et j'ai vu cet auteur, je me suis dit, oh, on peut, à travers un film parler de choses aussi métaphysiques et une expérience un peu psychédélique et tout ça. Et après, j'ai eu la curiosité de remonter et c'est là que j'ai découvert tout le passé d'Arthur C. Clarke et son passé vraiment d'astronome, de quelque chose qui, ben justement, lui essayait vraiment de préparer l'humain à aller dans l'espace, quoi.
Vous feriez le même film ? Vous feriez le même film ? Vous feriez la même adaptation ?
Non, comme dirait Héraclite, on ne pourra jamais faire la même chose, puis ça dépend des personnalités. Non, ce que je trouve intéressant dans le processus, c'est le processus. C'est vraiment la rencontre entre deux auteurs et qui vont créer une œuvre commune et qui après vont en sortir quelque chose qui est vraiment spécifique à leur propre domaine de compétences. C'est vrai que et le roman et le film sont très différents avec en même temps le même fond, et c'est ça qui est passionnant de voir comment chaque esprit, même quand il y a une vraie vraie complicité comme ce qui s'est passé entre ces deux auteurs, commence aussi un peu à varier.
Alors j'avais une question à côté.
Oui, bonjour. Pour Monsieur Caron, oui. Alors vous nous parlez de la complicité, oui, entre le réalisateur et un scénariste ou un auteur, mais sur l'œuvre d'Arthur C. Clarke, quelle serait la scène que vous adoreriez retranscrire à l'écran ?
Dans 2001 ?
Sur l'ensemble de son œuvre. Enfin, s'il y a une scène vraiment que vous adoreriez pouvoir retranscrire.
Non, c'est vrai que ce qui me passionnerait, moi aussi, c'est vrai que l'autre roman sur lequel j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Rama, quand j'ai lu Rama. Et c'est vrai que reconstituer tout l'univers et les créatures aussi de Rama serait un challenge très intéressant pour un réalisateur. Je sais que, comme tu disais tout à l'heure, c'est un projet qui existe dans les... Morgan Freeman, ouais, ont racheté les droits. On a entendu parler un moment que David Fincher devait le porter à l'écran. C'est un peu le monstre du Loch Ness à Hollywood, mais c'est vrai que ça nécessite de très gros moyens, mais ce serait vraiment... J'adorerais qu'on me propose ce script à réaliser, bien sûr.
Il n'y a plus qu'à, quoi.
Moi, la scène qui me plairait de voir au cinéma, c'est le moment où, d'un seul coup, donc quand l'équipe d'exploration arrive sur Rama, tout est plongé dans le noir. Et d'un seul coup, la lumière s'allume. Et ça, voir au cinéma, alors que l'équipe avait installé son camp de base, etc., et voir ça au cinéma, le moment où... Déjà, comment arriver à faire en sorte que le spectateur ne tombe pas à la renverse à ce moment-là, ça, ce serait une scène au cinéma qui serait à tomber absolument sublime.
Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Peut-être. Juste une question pour vous qui êtes dans le public. Qui a lu le 2001, l'Odyssée de l'espace, ou vu le film ? Vous avez le droit de lever la main. D'accord. On parle beaucoup de Rama, et qui a lu Rama ? Ah, ok, d'accord. Une question, Georges.
Non, on cite les principaux titres. Je citerai encore un titre un peu qui n'a pas été donné. C'est Les Enfants d'Icare, qui, pour l'introduction de l'humanité dans l'espace, est vraiment la référence.
Alors peut-être, Monsieur Alastair Reynolds, quel regard vous avez sur Les Enfants d'Icare ?
Yeah, Childhood's End, that's another one I read when I was a lot younger. I haven't reread it, but bits of it stick with me ever since. I mean, it's really, really important book. It's probably, I wouldn't put it in my top three, but that's not to say I'm denigrating it. I mean, I still think it's a fantastic book, but the fact that I haven't reread it probably says something. I mean, I've reread 2001 and Rama, Imperial Earth, and I guess my natural tendency would be to go for the space ones, And I know there is space travel in Childhood's End. I think when I read it originally, I found it a bit incomprehensible because I was 10 or something. But maybe time for a reread. Yeah, I remember the bit where the guy goes in the whale. The humans send a whale to this alien civilization as a kind of museum exhibit, and they work out how to send a spy embedded in this whale as a kind of Jonah, high-tech Jonah. That's typical Clark touch, that, I think. Yeah, there's like a whale, a dead whale, they're sending to an alien museum of natural history. The aliens essentially have a whale, and the humans put a man in, like a spy.
Okay,
yeah, like a Trojan horse.
Okay.
Yeah.
Alors, les enfants Nicard, il a lu parmi tant d'autres, mais pour lui, ce ne serait pas le livre qu'il placerait dans son top 3, même si pour lui, c'est aussi un livre important qui lui reste un petit peu collé à la peau. S'il ne le met pas dans son top 3, ce n'est pas pour dénigrer ce livre, pas du tout, mais lui, il a toujours été plus attiré par les livres qui parlaient de la conquête de l'espace. Et le fait qu'il ne l'ait pas relu, ça y est peut-être pour quelque chose. Maintenant, quand il l'a lu, quand il avait 10 ans, ça lui a semblé un petit peu incompréhensif, mais peut-être que 10 ans, c'était peut-être un peu jeune et qu'il est temps maintenant justement pour une relecture. Alors, par exemple, ce qui l'avait intéressé dans ce livre, c'était l'histoire justement pour les musées des extraterrestres où les extraterrestres demandent qu'on envoie une baleine morte. Et que les humains pensent à mettre un espion dans la baleine morte, donc un humain à le placer dans cette baleine morte. Ça, c'était une figure qu'il trouvait très intéressante. Donc, voilà.
Corinne, ton regard sur les enfants d'Icar ?
J'avoue que là, je suis en train de chercher lequel c'est. Je ne l'ai pas relu, celui-là, depuis un bon moment. Et si les spécialistes pouvaient me refaire un résumé, parce que celui-là, je l'ai zappé.
Alors, avant le résumé, est-ce que quelqu'un a une autre question ? Non,
profitez-en. J'en parlerai tout à l'heure. Il faut me remettre le...
D'accord. Alors, juste une question. Je vais mettre les pieds dans le plat, mais Arthur C. Clarke, ça faisait un petit bout de temps qu'il n'écrivait plus. Ses chefs-d'œuvre, c'est les années 60-70. Est-ce qu'il est encore d'actualité ? Est-ce qu'on peut encore lire Arthur C. Clarke ? Ou alors c'est une icône dont on se passe les livres, mais qui n'est plus vraiment lisible aujourd'hui ?
Ça se relie encore très facilement. Les Fontaines du Paradis parlent, si je me souviens bien, d'une super société où les dirigeants se sont clonés pour pouvoir continuer à, si je ne me trompe pas, dirige l'ensemble du système solaire. Donc on a l'idée du consortium qui chapeaute. C'est celui-là ou c'est un autre ? C'est en Terre impériale, voilà, je confonds les deux titres, j'étais en train de chercher, voilà, c'est dans Terre impériale. Voilà, donc là, c'est plutôt dans Terre impériale que dans les Fontaines du Paradis, je confonds entre les deux. Il y a aussi tout ce qui est écologie, les thèmes écologiques qui reviennent dans... Il y a l'idée aussi d'utiliser le soleil comme moyen de propulsion avec la voile solaire, que la NASA a testé encore il y a quelques années. Donc c'est bien la preuve qu'il reste malgré tout moderne et qu'il a eu beaucoup d'idées avant son temps et que maintenant on pourrait effectivement réemployer. Il y avait des idées excellentes pour la conquête de l'espace qui ont été mises au placard alors qu'effectivement ça ne demandait pas tant de moyens que ça.
Monsieur Alastair Reynolds, c'est la même chose. C'est encore un auteur que vous pourriez lire aujourd'hui ? Ou tout du moins que vous conseilleriez ?
Well, for me, yeah, he is, totally. But I do know people that I've heard of people who have kind of picked up one of his books and just found them incredibly old-fashioned and dated, full of wooden characters. I think you either see beyond that into the good stuff or you don't, and that's entirely down to the reader. I see the good stuff. And his books haven't dated... Hugely. I mean, they've dated in some respects. The science turns out to be wrong, or the politics is out of date. But the good stuff's still good because he, you know, the ecology. He was very ecologically minded. He was very globally minded. He tended to think more in terms of. There are very few villains in his books. He wasn't melodramatic in that sense. If there's a villain, it's space or the ocean, rather than the bad guys, you know. And I think that that helps his books feel more adult than a lot of science fiction that was written in the 50s. So for me, they're still readable. You have to look beyond the flaws, but that's the case with any writer, I think.
Alors, il connaît effectivement des gens qui ont voulu lire le livre et qui ont considéré qu'il était complètement dépassé et old-fashioned. Mais pour lui, il faut voir au-delà de ça. Maintenant, ça appartient à chaque lecteur de juger ça. C'est vrai qu'il y a des éléments de la science qui sont un petit peu dépassés, qui maintenant se sont révélés comme injustes, de la politique qui peut dater. Mais... très globalement, les idées écologiques et la façon de penser étaient quand même très modernes à l'époque. Ce qui l'intéresse aussi, c'est que les méchants dans les livres ne sont jamais des personnages. S'il y a un méchant, c'est l'espace ou un élément, mais ça ne va jamais être spécifiquement une personne. Et ça, c'est ce qu'il trouve intéressant parce que ça évite que le roman devienne trop mélodramatique. Donc ça, c'est quelque chose... et il dit qu'effectivement, pour lui, le livre est encore toujours très moderne. Et voilà.
Et une dernière question, est-ce que l'homme, le scientifique, vous intéresse ?
No, that's never really been. I mean, to me, that Clark is Clark, and you could take away all the science stuff, the telecommunication satellite, and all that, and I would still be equally interested in his career as a writer. The fact that he did some work on radar and satellites, it's never been that central to me. It's not really... That doesn't matter. What matters is what he wrote in the books.
Alors non, pour lui, Clark, ça a toujours été Clark. Le fait qu'il se soit... pour lui, on pourrait enlever toute la partie, la science, le fait qu'il ait construit des radars ou des satellites. Ça n'a pas d'importance pour lui. Lui, ce qui lui importe, c'est ce qu'il a écrit. Et voilà, c'est l'écrivain et le scientifique. Non, ça non.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une petite question pour conclure? Sinon, on va en rester là sur Arthur C. Clarke. Ah, peut-être.
Arthur C. Clarke a influencé toute la science-fiction anglaise, britannique. Il a créé des fanzines, il a participé au démarrage de tout le fandom en Britannique. Et bon, d'une part, il y a ça. D'autre part, il a influencé la NASA intégralement. Et beaucoup des astronautes, etc., n'auraient rien fait de ce qu'ils ont fait sans Arthur C. Clarke. Donc on peut pas chanter son aspect, son côté scientifique et son côté auteur passionné des sciences et passionné d'astronautique. Et ça fait partie, je pense, ça fait partie intégralement du bonhomme, ça. Enfin bon, c'est pas vraiment une question.
Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ça, vous trois ?
Non, mais je suis assez d'accord avec vous, parce que même dans jusqu'à la fin, il a eu toujours cette rigueur scientifique. Il y a un mythe qui s'est développé sur... enfin, c'est ce qu'il dit, hein. Ce qui s'est développé sur 2001, l'Odyssée d'espace, comme quoi le nom du computer HAL 9000 était basé sur une lettre avant IBM. Et il a dit, mais non, c'est faux. Pendant des années et des années, il a essayé de convaincre tout le monde que ce n'était qu'un mythe et que c'était heuristique, algorithme, etc. Et même, justement, dans son quotidien, il a toujours eu cette souci de vérisme scientifique. Et je trouve ça, ça traduit bien cet aspect et d'écrivain et de scientifique.
Allez, dernier mot pour Georges.
Juste pour dire qu'il y a un livre d'Arthur C. Clarke qui est complètement tombé dans l'oubli, peut-être à juste titre. C'est pas un roman, c'est son livre de prospective, Profil du futur.
Est-ce que quelqu'un connaît Profil du futur ?
Non.
Oui, Monsieur Reynolds, vous voulez en dire un petit mot ?
Well, that's one of my favorite books, but I don't mention it. off the top of my head because it's non-fiction. It's a collection of essays about the future, but as a writer, as a when I was sort of trying to become a science fiction writer, that was a really important book for me because it sort of shaped the whole way I think about the future. It was Clark kind of explaining his thought processes, I think. And although the book was written in the early 60s, I talked to a lot of science fiction writers, and they still, a lot of them really got a lot out of Profiles of the Future. I was talking to Ken MacLeod a year or two ago, and he'd recently reread it, and he said there's still really good stuff in Profiles of the Future. So
it's not a science fiction.
No, it's
non-fiction. Alors, pour lui, c'est effectivement un de ses livres favoris, mais la raison pour laquelle il ne le cite pas, c'est parce que pour lui, c'est de la non-science-fiction. Clark qui explique... il y explique sa façon de penser, la façon dont il construit les choses. D'ailleurs, il en a encore reparlé avec M. Ken MacLeod, qui lui aussi disait que s'il y avait vraiment des éléments très importants de ce livre, la construction du livre était très très importante. Donc oui, effectivement, c'est un livre un livre majeur également. Mais c'est de la non-fiction.
On va s'arrêter là. Merci à tous d'être venus et ne manquez pas la cérémonie de remise des prix des Utopiales.